Gaëtan Roussel, activiste de la scène française, tisse une vraie passerelle entre le rock et la musique de danse. Il poursuit son credo et rencontre Agoria, DJ et petit entrepreneur de la musique électro.
Quand la musique donne, demain sur France Inter, à partir de 16h.
France Inter, la différence.
Là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet, c'est maintenant.
De France Inter, là. rien à foutre, mais franchement, rien à foutre. J'ai pas de tablette Apple, mais je m'en bats les couilles. C'est con pour sa famille, c'est tout, voilà, quoi. C'est con pour ses proches, c'est tout. Voilà. Salut, c'était Fred de Sommervieux. Mais alors là, je m'en bats les couilles. Salut.
Dieu est mort cette nuit, paraît-il. Son prénom, c'était Steve. J'ai entendu ça à la radio. Merde. Enfin, moi ça me dérange pas trop, parce que je suis pas croyant. Mais pour les autres, ça doit être con, hein. D'ailleurs, ils l'ont dit à la radio. Ils ont dit que tous les possesseurs de petits pains multipliés et de poissons multipliés étaient attristés. Dieu est mort.
Salut les MG, et puis salut toute l'équipe de Daniel. C'est Didier de Gaillac. J'apprends par les infos là, que le grand patron de Apple a cassé sa pipe. Et surtout, ce que j'apprends, c'est que par centaines, voire par milliers, dans le monde entier, les gens vont se recueillir devant les boutiques Apple. Et ben les enfants, on n'en a pas fini avec la lutte des classes, il y a du boulot à faire. Allez, bisous, ciao.
La nouvelle est tombée de partout, et déjà les hommages du monde entier pleuvent. L'inventeur du papier hygiénique est mort. Un homme remarquable, mystérieux, qui n'était connu que par ses initiales, PQ, et qui a révolutionné le monde, comme l'ont rappelé Barack Obama et Nicolas Sarkozy. C'était un homme remarquable. Fallait y penser. Il a fait avancer la civilisation. Dans toutes les grandes surfaces de France, au rayon des papiers hygiéniques, nous avons rencontré de nombreux consommateurs bouleversés. Oh mais moi, pour moi, PQ, c'était vraiment un génie, quoi. Je veux dire, je le connaissais pas, mais il faisait partie de la famille. Et maintenant, chaque fois que je vais me torcher, je penserai à PQ. Voilà, nouvelle que moi-même, j'ai du mal à vous annoncer. Parce que, excusez-moi, j'ai un besoin pressant.
Donc, les banques créent la monnaie. Elles décident à qui et de combien elles accordent les crédits. La BCE dicte aux États la politique qu'elles doivent mener. Bon, bah alors, finalement, attends, c'est bien les banquiers qui gouvernent l'Europe, là. Et puis, il ne serait pas de mèche un peu avec d'autres continents? Ah oui. Mais dis donc, quand un pouvoir non démocratique gouverne un peuple, comment ça s'appelle déjà, ça? Attends, je ne sais plus, je vais chercher. Bon allez, salut, hein, c'était Anatolie des Hautes-Pyrénées.
C'est excellemment pédagogique cette émission qui est centrée maintenant sur l'histoire, c'est-à-dire il y a eu la présentation, maintenant il y a un peu de distance prise par François Ruffin au travers de Serge Limy qui fait une focalisation, une contre-plongée on peut dire, en revenant dans les années où la gauche est arrivée au pouvoir et elle s'est heurtée à la racaille capitaliste et donc elle a tiré de leçons. Leçons qui ont été oubliées aujourd'hui, malheureusement, et plus qu'oubliées, rejetées sans doute par des hommes de gauche qui n'en ont que l'étiquette. Mais moi, ce qui m'a frappé, surtout dans l'émission, c'est le rappel des missions principales de la BCE, c'est-à-dire la stabilité des prix. Et je m'aperçois chaque jour, quand je vais à Leclerc, ou à ED, ou à Auchan, que maintenant, les prix, tout simplement, ils explosent. Qu'on sort du supermarché, on se dit, il va falloir encore une journée, une semaine, un mois, que je compte encore une fois. Et jusqu'où ça va aller, ça? C'était Alain de Saint-Étienne-du-Rouvray.
Bonjour Daniel, c'est Pierre de Rouen. Je t'appelle suite à tes remarquables émissions sur le rôle des banques dans l'économie réelle. Et si j'interviens, c'est parce que je voudrais quand même apporter quelques petits rectificatifs. La récession économique a commencé bien avant la récession financière, parce que la récession économique est due à la saturation des marchés. Tous les clients solvables ont été équipés. On s'est ensuite intéressé aux clients insolvables pour essayer d'entretenir artificiellement une croissance économique. C'est le rôle des subprimes. Je voudrais aussi que tu t'intéresses particulièrement à l'ordonnance de 1973, édictée par Georges Pompidou, ancien directeur général de la Banque de France, de la Banque Rothschild, Pierre Messmer et Valéry Giscard d'Estaing, qui asservit l'État français aux banques privées. C'est en fonction de cette ordonnance qui asservit les États aux banques privées que les banques privées ont pu présenter aux clients, à leur clientèle, des produits financiers attractifs, comme les fonds de pension, les retraites complémentaires ou les assurances vie. Donc je considère que ces banques privées sont des parasites des États, puisqu'elles pompent la sève des États jusqu'à les faire mourir, exactement comme le gui sur l'arbre. Merci pour tes émissions et à bientôt.
Exactement comme le gui sur l'arbre. Alors le gui sur l'arbre, il y a ceux qui le considèrent comme un parasite et qui le chassent et qui le coupent et qui l'arrachent. Et puis il y a ceux qui s'embrassent sous le gui, au gui l'an neuf. Voilà, ben, on peut tout à fait utiliser cette métaphore de notre ami modeste et génial auditeur qui, comme beaucoup, s'intéresse à cette série sur la Banque Centrale Européenne. Quand François Ruffin m'a proposé ce sujet, je lui ai dit, écoute, là on va vraiment perdre des auditeurs cette fois-ci avec un sujet aussi austère, aussi ennuyeux, aussi embêtant, aussi... Eh bien pas du tout, ça marche très très bien, c'est un sujet qui vous intéresse et qui nous intéresse aussi, il faut bien dire qu'on est tous en train de découvrir ça. Voilà, il faut bien reconnaître qu'on ne sait pas tout et on ne savait pas du tout quel était le rôle, enfin, ou mal, ou peu, ou vaguement, le rôle de cette Banque Centrale Européenne, son influence sur la politique des gouvernements européens et donc, par voie de conséquence, sur nos vies quotidiennes. On continue donc aujourd'hui. Cette fois-ci, on va lutter contre le monstre de l'inflation. Et je dois vous dire et vous rappeler en tout cas que ce soir, je serai à Limoges, au cinéma Le Lido à Limoges, pour célébrer avec des amis de Limoges l'anniversaire d'une association qui s'appelle Mémoire à Vif, qui a été créé il y a 10 ans à la suite d'une série d'émissions de Là-bas si j'y suis. Et on assistera à l'avant-première de la projection du film de Jacques Panigel, Octobre à Paris, un film sur les manifestations du 17 octobre 1961. C'est un sujet qui va nous préoccuper beaucoup la semaine prochaine. Et pas plus tard que lundi prochain, au Cabaret Sauvage à Paris, grande soirée à partir de 19h avec Stéphane Essay, Edwy Plenel, Benjamin Stora, des musiciens tels que Les Ogres de Barbac et beaucoup d'autres. Le Cabaret Sauvage, c'est à Paris, c'est au Parc de la Villette à Paris et c'est au métro Porte de la Villette. Ça commence à 19h. J'y serai, on y sera et on serait très heureux de vous y voir pour inaugurer cette suite de célébrations et autour du 50e anniversaire, vous avez compris, du 17 octobre 1961. Mais là, ce qui nous préoccupe tout de suite, là, jusqu'à 16h sur Inter, c'est la Banque Centrale Européenne, un voyage, une excursion à Francfort, capitale du capital.
Bonjour Abbas, c'est un petit message pour les AMG de Perpignan. Notre repère mensuel se tiendra ce jeudi soir, comme tous les premiers jeudis du mois, que ça aura lieu comme d'habitude au Lisboa, malgré les velléités de changement de lieu. Nous nous retrouvons donc au Lisboa à 19h pour y décider justement du changement de lieu où se déroulent nos rencontres. Ce sera peut-être aussi également l'occasion de faire un point, un bilan sur nos réunions, qu'est-ce qu'on y attend, on y trouve, qu'est-ce qu'on voudrait et que faire pour reprendre les derniers dossiers de là-bas et de Fakir. Voilà, donc à ce soir, chers AMG catalans.
Salut les AMG, la suite des palabrasives au Salin de Villeneuve-les-Maglones près de Montpellier. L'association Avis de Chantier vous propose samedi 8 octobre à 17h la projection du film Chomsky et compagnie en présence d'Olivier Azam, co-réalisateur avec Daniel Mermet, puis un débat. Donc, samedi 8 à 17h au salon de Villeneuve-les-Maglones. Qu'on se le dise.
AMG de Bressuire et du Bocage, bonjour. La fermeture du bar L'Appartement cet été nous prive de notre repère et nous oblige à déménager. Un jeune couple franco-turc, Amin Wanouche et sa femme, nous accueilleront désormais au bar Le Gorillaz, passage de la Poste, rue de la Vergne à Bressuire. Et les rencontres ont toujours lieu le premier vendredi de chaque mois à partir de 19h30. Donc prochaine rencontre au bar Le Gorillaz, passage de la Poste à Bressuire, rue de la Vergne, vendredi 7 octobre à 19h30. Salut.
Dans le Tarn, reprise du Café Repère d'Alban chez Marco Libourel, le jeudi 6 octobre à 20h30, en écho à la journée de l'Île-sur-Tarn, Vivre en Utopie, avec la projection du film Marina Leda.
Bonjour Monsieur Mermet. Une fois de plus, nous venons de subir l'écoute de votre émission gauchiste, orientée, partisane, tendancieuse, mensongère, subversive et malhonnête. Sachez, Monsieur Mermet, que vous êtes sur le service public et que pourtant, vous ne représentez pas la vraie France. Mais ne vous faites pas d'illusions. La vraie France, tôt ou tard, ne tardera pas à vous chasser de cette antenne qui nous appartient à nous, les vrais Français. Alors, profitez bien de vos derniers instants, Monsieur Mermet. Je ne vous salue pas, nous ne vous saluons pas. C'était un message de Philippe, Jean-Luc et Nicolas de Paris.
Je sais pas si je dois trembler, mais c'est ici qu'est retenu le monstre. Ouais. Chacune des personnes autour de moi, là, les hommes en costume, les femmes en tailleur, ça se voit pas à leur tenue, mais ce sont en fait des guerriers. Des guerriers qui, pour nous, pour notre bien, combattent le monstre au quotidien. Évidemment, toi, Daniel, tu vis dans l'inconscience, et tes auditeurs aussi. Attends, je vais me cacher dans les toilettes pour pas que le monstre me trouve, parce qu'elles sont les toilettes ici. Parce qu'il suffit de se rendre sur le site de la Banque Centrale Européenne pour comprendre le danger. Il y a un dessin animé, et avant la BCE, on voit le gros monstre de l'inflation. Un gros monstre énorme qui court après les gens. Et les gens, quand ils veulent payer, quand ils veulent s'acheter une baguette, ils peuvent même pas tellement les prix grimpent vite. Il leur faut des brouettes de pièces pour acheter un pain et il pleut carrément des billets de banque. Et avec dans leur dos l'ombre du gros monstre de l'inflation énorme, menaçant, qui avance comme ça.
On l'a échappé belle. Je me demande qui surveille l'inflation aujourd'hui.
Est-ce que la prof n'avait pas parlé de la Banque Centrale Européenne et de la stabilité des prix?
Si.
Mais ensuite, les étudiants vont à la Banque Centrale Européenne et là, ils demandent « Où est-ce qu'il est, le gros monstre méchant de l'inflation ?»
Bien, que puis-je faire pour vous?
Voilà, nous venons de voir le monstre de l'inflation et les dégâts qu'il provoque. Est-ce vous qui vous en occupez?
Le monstre de l'inflation?
Oui, il était en train de...
Oh, vous devez parler de ceci.
Alors un fonctionnaire à cravate, bien coiffé, sort d'un tiroir de son bureau un petit monstre, minuscule, qui tient dans une petite boîte. Tu sais, comme les enfants mettent des scarabées dans des pots de confiture.
C'est lui l'inflation? Le monstre? Il est minuscule?
Bien sûr.
Et il dit voilà, voilà, maintenant il est devenu ça, c'est le petit monstre de l'inflation. C'est un petit monstre. Il est inoffensif, vous en faites pas. Tout ça grâce à la BCE. Donc aujourd'hui, quand je vais sortir des toilettes, on va se balader à la BCE pour voir comment tous ces agents combattent le monstre de l'inflation. Bon, on va se demander aussi si ce monstre nous menace vraiment ou plutôt qui, l'inflation menace vraiment? Les salariés ou les rentiers?
Salut les rentiers, salut les routiers, c'est la Bassuzy Suisse, c'est Daniel Mermet avec François Ruffin. Francfort, capitale du capital, la Banque Centrale Européenne ne fait pas de politique. Vraiment?
Bien. Quel est l'objectif principal de la Banque Centrale Européenne et de l'eurosystème?
Maintenir la stabilité des prix.
Bien.
Et combattre le monstre de l'inflation.
Pourquoi ne pas l'appeler ainsi? Oui.
Super.
Il y a un dessin animé qui se trouve sur le site internet de la Banque Centrale Européenne, où on voit le gros monstre de l'inflation. Et puis ensuite, on entre à la Banque Centrale Européenne, on entre ici, au 29 Kaiserstrasse à Francfort. Et donc là, il y a un monsieur Paul Mercier, on imagine.
Ah non, c'est pas moi le monstre.
Il y a un expert de marché, on va dire, qui vient dire non, mais il n'y a plus le gros monstre de l'inflation. Alors, comment on fait pour que le gros monstre de l'inflation devienne ou reste un petit monstre?
On empêche, c'est plutôt l'inverse. On a un petit monstre qu'on garde sous la main et on empêche qu'il ne grossisse.
Oh, vous devez parler de ceci.
Il est minuscule.
Quand il est devenu très gros, comme c'était le cas en Allemagne dans les années 20, c'est très difficile de le ramener un petit monstre. Et on a vu par où on est passé. Donc il vaut mieux ne pas attendre qu'il y ait le grand monstre. Et donc toujours garder le contrôle du petit.
Alors comment on fait? Comment vous faites concrètement ici? Alors, au jour le jour, disons, pour que le petit monstre reste petit?
L'outil que nous utilisons pour avoir un impact sur la stabilité des prix, le premier outil que l'on a, c'est un ou des taux d'intérêt.
Ça veut dire que c'est le taux auquel la Banque Centrale Européenne prête à toutes les banques commerciales?
Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement
ça. Donc alors, en ce moment, c'est 1,5%?
Voilà, exactement.
L'inflation, le voilà bien, le monstre de l'inflation. C'est assez formidable comment certains savent manipuler notre mémoire traumatisée, les traumatismes collectifs, des mémoires. Je pense à cette image du monstre de l'inflation en lien, bien sûr, avec ces images de l'Allemagne des années 20 gagnée par l'hyperinflation où il fallait une brouette de monnaie pour aller acheter un quignon de pain. Et c'est contre cela que lutte la Banque Centrale Européenne contre ce monstre-là. Vous vous souvenez, en 2005, quand il s'agissait de voter oui et d'approuver le traité de Constitution européenne, comment on utilisait là aussi les monstres de la division des pays d'Europe, les monstres du fascisme et du nazisme, et lutter contre le fascisme et contre le nazisme, c'était dire oui, et dire non, c'était être pour. C'est à peu près l'utilisation qui est faite par certains propagandistes de la mémoire collective et de ce que l'histoire dépose dans nos mémoires. Il s'agit de bien autre chose concernant cette lutte contre l'inflation qui est la mission première de la Banque Centrale Européenne. Et c'est ce que nous essayons d'expliquer avec François Ruffin depuis cette série, depuis lundi, cette série d'émissions. À la tête de la Banque Centrale Européenne, il y a le brillantissime
Jean-Claude Trichet, qui, le 1er novembre prochain, cédera sa place à M. Mario Draghi. Et les journaux spécialisés, la presse spécialisée, fait le bilan des 8 années de M. Jean-Claude Trichet passé à la tête de la BCE. Et c'est un salut unanime pour sa grande rigueur monétaire. Et on retiendra surtout son audace dans la gestion de la crise financière, sans flamme alternative économique. Alternative économique approuve Jean-Claude Trichet et sa mission, même si l'on voit quand même en fin d'article quelques petites nuances qui sont comme des toutes petites puces qui nous viendraient aux oreilles pour les populations de la périphérie européenne. Il restera, M. Trichet, toutefois le représentant du monde de la finance, l'homme qui a jusqu'au bout défendu les intérêts des banques contre ceux des salariés grecs, portugais ou espagnols, le chantre de l'austérité irréductiblement opposé à toute restructuration de la dette et à tout ce qui pourrait effrayer les marchés. Bref, le défenseur d'un capitalisme financier qui n'en finit pas de s'écrouler, menaçant d'emporter l'Europe dans sa chute. C'est à peu près, en beaucoup plus modéré, en beaucoup plus euphémisé, ce que dit le numéro de manière de voir du Monde diplomatique, crise bancaire, le casse du siècle. C'est notre sujet du jour, comprendre comment marche cette banque centrale européenne qui a beaucoup d'influence, je le disais, je le répète, sur nos vies quotidiennes. Il se pourrait bien que ce soit là que le chômage ait été inventé, souhaité et programmé il y a déjà de nombreuses années. C'est une des questions qu'on pourra se poser et poser au cours de cette heure que nous passons ensemble jusqu'à 16h. C'est la base édition.
Sans bruit, sans froid, sans cesse, sans perdre la chère machine, courtier, coursier, chère amitié, lâcher, payer les petits papiers, j'achète, m'achète, manage, manage, ménage, manège, la course aux anonymes, économime, même, unanime, fric, fric, je dis non, je préfère les clous de colle, c'est le crack des bourses et des villes, c'est le choc, vitesse, inutile. L'homme fauche son blé, j'anusine, et j'extracte la strophe, j'olfactive, quand l'Elias s'entraîne.
Le business de l'humain, caca, il y a
de la bourse, la pluie, ne fait plus de claquettes, depuis belle lurette, faut des pépettes, l'homme a son home training, dans son appartement clean, Maastricht, Berlin, debout, les cailloux, les godets, les héritiers d'Idier, voulez-vous les enfants baillonnés d'année.
La reprise de ce domaine, qu'à 40 émissions, on se voit en France,
Clément Fontan, vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université de Grenoble.
Le titre de ma thèse n'est pas très définitif. Hein. Mais en fait, je vais m'intéresser de plus en plus à la relation entre la crise financière et la manière dont la Banque Centrale Européenne a gagné de l'influence politique depuis et pendant cette crise.
Voilà. Voilà ce qu'il nous fallait, un observateur comme Clément Fontan, donc doctorant en sciences politiques à l'Université de Grenoble. Et ce garçon a fait un exploit assez formidable. Il a lu 600 pages de Jean-Claude Trichet, 600 pages écrites par Jean-Claude Trichet, ses conférences de presse depuis 4 ans. Il a regardé ça, il a étudié ça de près et il a tiré des conclusions sur le transfert d'idées et de modèles politiques dans l'Union européenne, en prenant spécialement le cas de la BCE.
Vous avez une base de données avec toutes ces conférences de presse de Jean-Claude Trichet ?
Ouais. Tu peux voir là, pour un an, donc il y a à peu près 70 000 mots, ça correspond à 120 pages.
Donc ça sur 4 ans, donc ça fait aux alentours de 300 000 mots, près de 600 pages quoi.
À peu près, ouais. 600 pages de Jean-Claude Trichet, c'est...
tant que c'est pas dans la Pléiade, en édition reliée, c'est sur ton ordinateur, quoi.
Exactement.
Il y en a qui ont la joie de lire Céline, Proust, de les étudier. Toi, c'est Jean-Claude Trichet, ton Paul Valéry, ton Apollinaire, ton Rimbaud, c'est Jean-Claude Trichet.
Exactement, c'est...
Sur ces 600 pages de Jean-Claude Trichet, c'est 350 000 mots. Quel est le mot-clé ?
Stabilité des prix. Alors la stabilité des prix, c'est finalement la principale source de légitimité de la BCE et c'est la seule mission qui lui a été donnée.
T'as mesuré combien de fois revenait cette expression stabilité des prix par...
Alors j'ai un petit tableau que je vais te montrer qui recense justement... Donc ça c'est les mots les plus employés, tu vois. Tu as le premier mot propre qui est employé. C'est IPCH, donc c'est l'indicateur du taux d'inflation.
Donc ça, c'est le premier, le mot le plus utilisé, c'est IPCH, donc c'est l'indicateur de l'inflation.
Exactement. Ensuite, le premier substantif, tu peux voir, c'est prix. Et en deuxième, tu as marché du travail. Alors justement, ça c'est assez typique, le marché du travail, normalement, ça ne devrait pas être la compétence de la BCE. La BCE a une mission et une responsabilité en termes de politique monétaire. Mais ce que va faire la BCE dans son discours, c'est, voilà, on ne peut pas s'occuper que de la politique monétaire. Il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, comme par exemple l'augmentation des salaires. S'il y a augmentation des salaires, ça va entraîner des risques d'inflation. Or, une inflation haute, c'est très mal pour tous les citoyens d'Europe, etc. Et donc là, il y a la machine du discours de la BCE qui revient avec son discours classique sur l'inflation.
Donc la troisième expression là, la plus employée, c'est stabilité des prix.
Voilà. Donc, encore une fois, le concept de stabilité des prix, toujours au centre des analyses de la BCE, la stabilité des prix, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est les populations les plus vulnérables qui sont affectées par l'inflation dès le départ, etc. En fait, la stabilité des prix, c'est la potion magique, le remède magique à tous les maux, d'après la BCE.
Mais c'est incroyable ! Il continue d'augmenter ses prix.
On ne pourra jamais rien acheter ici.
Eh bien, il vous faut simplement plus d'argent.
Attends un peu, je te connais. Tu es l'inflation.
Oh, bravo! Comme vous êtes très intelligent, je vais tous vous récompenser par un prix en espèces.
Non, arrête!
Avant la BCE, il y a un gros monstre de l'inflation, un très très gros monstre de l'inflation, et les gens peuvent même pas payer leur pain. Parce que à peine ils vont pour payer que hop, l'étiquette elle change, le prix double. Alors, est-ce que moi, je dois avoir peur toujours la nuit ? Est-ce que je dois cauchemarder sur ce gros monstre de l'inflation ?
Pour répondre à la question angoissée de François Ruffin, Jacques Généreux, qui enseigne, qui est maître de conférence des universités et secrétaire national à l'économie du Parti de Gauche, Jacques Généreux.
Pas parce que vous avez 4, 5 ou 6% d'inflation que vous êtes confronté au phénomène décrit dans ce petit film qui est celui de l'hyperinflation. Donc voilà le grand mensonge. C'est-à-dire que faire croire que la BCE nous a mis à l'abri d'une menace qui n'existait pas dans ce pays, c'est une honte pure et simple. Bon. Alors, cette hyperinflation, elle a existé. Et là, on voit bien l'influence germanique. Car ce que ce petit film illustre, c'est la paranoïa germanique vis-à-vis de l'instabilité monétaire et vis-à-vis de l'inflation. Les Allemands, dans leur inconscient collectif, pour des raisons évidentes, qui remontent à 1923, la grande hyperinflation de 1923, les Allemands sont traumatisés dans leur histoire, effectivement, par l'hyperinflation. Et donc, ils ont nourri, depuis l'après-guerre, le souci majeur d'assurer la stabilité des prix. On peut le comprendre. Cette menace n'existe pas. D'autant que si les pseudo-pédagogues propagandistes de la Banque Centrale Européenne avaient voulu faire un travail un petit peu plus sérieux, ils auraient pu faire un autre film plus réaliste, et comparer la situation des économies européennes quand on avait 4, 5, 6% d'inflation, ça s'appelait les 30 glorieuses, et mettre en face bien les taux de croissance qu'on avait, entre 4,5 et 5,5, 6% de croissance par an, le taux de chômage, 2 à 3% de chômage, c'est-à-dire ce qu'on appelle le plein emploi. Donc voilà, dans ces 30 glorieuses, on avait des pays qui avaient en permanence une inflation qui était plutôt entre 4 et 6%, mais qui avait une croissance qui était aussi en permanence entre 4 et 6%. Dans le même temps, les salaires horaires ouvriers moyens étaient doublés en 20 ans et nous avions le plein emploi. Voilà la situation que nous avions. Est arrivé un gros monstre qu'on appelle la BCE, et le gros monstre BCE a dévoré le plein emploi, a dévoré la croissance. Elle a dit non, maintenant on va ramener l'inflation à moins de 2%. Elle y a réussi, et en effet, ce faisant, elle a dévoré le plein emploi, elle a dévoré l'activité, et nous comparons et nous avons maintenant des chômages à 8, 9, 10%. Ah, on est content, on a 1,5% d'inflation, mais on a 10% de chômage.
C'est ça. La stabilité des prix crée la confiance. Elle favorise l'épargne et l'investissement, ce qui contribue à la croissance de l'économie et à la création d'emplois.
Et tout cela doit rendre le pays plus prospère.
C'est pourquoi nous, à la Banque Centrale Européenne et dans l'Eurosystème, nous prenons notre mission tellement au sérieux.
Quand on visite la Banque Centrale Européenne, on remet à tous les visiteurs, il me semble, ce livret, on remet ce livret, et dont le titre est « Pourquoi la stabilité des prix est-elle importante pour vous ?» Et c'est vrai que moi, je ne me suis jamais posé la question, je ne vois pas très bien...
Ah, vous avez tort. Si les prix augmentent, votre pouvoir d'achat va diminuer.
Non, mais si mon salaire, il est, comment on dit, indexé sur l'inflation...
Oui. Ah oui, si.
Paul Mercier. Si. Conseiller principal aux opérations de marché à la BCE.
Mais si l'inflation est galopante, tous les salaires ne sont pas forcément indexés, certains revenus ne le sont pas du tout. L'ironie des choses veut que, comme nous sommes une banque centrale bien sûr, mais banque quand même, beaucoup ont tendance à croire que nous sommes d'affreux capitalistes favorisant la spéculation, etc. Non, nous sommes de dangereux gauchistes. Nous sommes là pour défendre les plus faibles, qui sont ceux qui ne peuvent pas se protéger contre l'inflation. Quand vous êtes fortuné et que vous avez des tableaux de maître, des Picasso ou des choses de ce genre-là, ou des terres ou des maisons, l'indexation va se faire automatiquement. S'il y a de l'inflation, la valeur de ces biens va augmenter aussi. Mais quand vous avez votre petite pension et si elle n'est pas indexée, votre pouvoir d'achat s'effondre. Je caricature un petit peu.
Vous voyez finalement la lutte pour la stabilité monétaire, la lutte contre l'inflation comme un instrument de justice sociale.
C'est un instrument au service de la population. C'est ça l'essence même d'une banque centrale. Nous sommes au service de la population. Maintenant, il y a une chose encore plus importante, si je puis dire. Très souvent, on présente les banques centrales en général et l'eurosystème en particulier comme choisissant entre croissance et inflation. Et nous disons et nous répétons sans cesse, mais on nous écoute peut-être pas assez, que c'est pas l'un ou l'autre. La stabilité des prix est une condition nécessaire à la croissance.
La stabilité des prix nécessaire à la croissance, c'est le point de vue de M. Paul Mercier. Je rappelle qu'il est conseiller principal aux opérations de marché à la BCE. Voici le point de vue de Jacques Généreux que nous avons présenté.
Quand j'étais à Francfort, dans ma discussion avec le responsable de la salle des marchés, il me dit « mais nous, on est des gauchistes ». Parce que nous, on défend les classes populaires, on défend leur pouvoir d'achat en luttant contre l'inflation. C'est-à-dire, dans les années 70, vous n'avez jamais eu une seule manifestation contre l'inflation. Aucune. C'est-à-dire, vous n'avez jamais eu des syndicats qui ont protesté contre l'inflation. Et pourtant, nous avions des inflations à deux chiffres. Alors, c'est extraordinaire que les gens viennent nous dire « on est le défenseur des classes populaires ». Tiens, c'est extraordinaire parce que les classes populaires et leurs représentants syndicaux, au moment où on avait des inflations à deux chiffres, ils ne faisaient pas de manifestation contre l'inflation. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le pouvoir d'achat des salaires n'était pas atteint par l'inflation puisque les salaires suivaient. Voilà. Donc, en réalité, on a voulu imposer des politiques d'inflation plus rigoureuses. Pourquoi ? Parce que l'inflation érode la valeur d'un détenteur de patrimoine. Donc le grand renversement des années 80 sont des politiques de rigueur extrême, non pas pour sauver les classes populaires d'un monstre contre lequel elles ne se battaient pas, mais pour faire remonter les taux d'intérêt et donc la rémunération du capital. Donc vous dites que l'inflation, ça va plus... Contre le pouvoir d'achat des rentiers que contre le pouvoir d'achat des salariés.
Oui, si vous mettez en place les mesures qui sont sont nécessaires, ce qui était le cas dans les Trente Glorieuses. Vous aviez une indexation de fait des salaires, des retraites, ça, des revenus sociaux sur l'évolution de, des prix. C'est la raison pour laquelle, à la charnière des années 70-80, quand ce sont les néolibéraux qui sont arrivés au pouvoir avec Thatcher, Reagan, etc., l'obsession était d'aller vers une inflation plus faible. Pourquoi ? Précisément parce qu'elle était parfaitement contraire aux intérêts des détenteurs du capital.
Je disais, dans le Monde du 17 août, il y avait 6 économistes qui étaient interrogés sur l'inflation. Il y avait le directeur de la Banque de France qui disait « c'est immoral et dangereux ». Il y avait Olivier Blanchard du FMI qui disait « c'est une forme d'expropriation ».
Alors ça, c'est vrai que l'inflation est une forme d'expropriation, c'est pour ça qu'il faut s'en servir. Hein, c'est Keynes qui avait bien compris que justement l'inflation, c'était une manière de participer à ce qu'il appelait l'euthanasie nécessaire des rentiers.
Là, donc, ce que vous dites, finalement, c'est que l'inflation, ça c'est des outils très techniques auxquels on ne comprend pas grand-chose quand on n'est pas économiste comme vous, mais que finalement l'inflation, c'est un outil dans la lutte des classes.
Bien évidemment.
Que pas d'inflation, ça rend servir ce rentier, que un peu... une inflation modérée, 4, 5, 6, 7%, tant qu'on ne va pas trop dans les deux chiffres, s'il y a une indexation des salaires, ça rend service aux salariés et ça érode la rente...
La rémunération du capital, parce qu'eux ne peuvent pas avoir cette indexation.
C'est pour ça qu'on distribue finalement un livret à l'entrée de la Banque Centrale Européenne en disant « Pourquoi la stabilité monétaire est importante pour vous ?» pour nous convaincre nous-mêmes, finalement, de quelque chose qui va à l'encontre de nos intérêts.
Oui, et puis surtout parce que ça marche, parce qu'on peut facilement ici exploiter l'ignorance. Parce qu'en même temps, si vous dites aux gens, vous allez faire avec votre micro un sondage dans la rue, est-ce que vous seriez content que les prix augmentent de 4 ou 6% par an plutôt que 1,5%? Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens qui vous disent oui. Parce que spontanément, ils vont interpréter ça comme un coup de massue en plus sur leur tête qui est déjà pas mal amochée par tout ce qu'on leur inflige. Bon, donc c'est exploitable assez facilement.
Eh oui, ne pas confondre inflation et augmentation. Les mots nous piègent. Les mots nous piègent toujours. Paul Mercier qui nous retrouve.
La stabilité des prix est une condition nécessaire à la croissance. Et d'ailleurs, c'est assez facile à démontrer. On n'a jamais vu dans l'histoire depuis l'Empire romain, on n'a jamais vu un pays qui pouvait maintenir une croissance avec une inflation non maîtrisée. Ça ne s'est jamais passé, ça s'est toujours mal terminé. L'inflation est contre la croissance.
Je me permets de vous contredire. Alors, je ne sais pas si je vais le retrouver avec mon sens de l'ordre, mais j'ai regardé un graphique fourni par la Commission européenne, où en gros, dans les années 70 et 80, on avait une inflation qui était entre 6 et 10%, et dans les années 90, on avait 4%. Et pourtant, pendant tout ce temps-là, il y avait de la croissance. Il y en avait peut-être plus que maintenant. Les gens ne se réveillaient pas en cauchemardant la nuit sur est-ce que demain, il y aura les prix auront doublé.
Bon, on dit oui, enfin, dans le fond, une inflation... Pourquoi 2%? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 5? Et c'est vrai que si on vivait en permanence avec une inflation de 5%, peut-être que ce ne serait pas aussi dramatique. Le problème, c'est qu'on a aussi observé au fil de l'histoire que quand on a l'inflation qui commence, elle a tendance à s'emballer. Si on pouvait dire on la règle très facilement, allez, on laisse monter un tout petit peu, et puis hop, on arrête, on la reprend, un peu comme un cheval au dressage. D'accord, très bien. Le problème, l'inflation, elle est plutôt comme un cheval que personne n'a jamais dressé. Si on laisse un peu galoper, il y a un moment où il part et on ne le rattrape plus. Et l'histoire le démontre aussi, notamment dans le pays où nous sommes, ici en Allemagne, l'histoire des années 20 le démontre amplement. On parlait de 2000% par an. Hein, on ne parlait pas de 2,5%, on parlait de 2000% par an.
J'ai vu un monstre dans la rue qui se baladait nu. Il s'est fait arracher tous ses vêtements à force de rire bêtement. Sa tronche ne m'est jamais revenue car il mangeait tout ce qui était différent. Il ne reste plus beaucoup de temps, non. Il se voit vraiment le roi de tous les tiroirs et les placards du royaume des fous. Les enfants en pleurent le soir, il faut refermer la porte derrière vous. pas de grande dame, juste des idées folles. Ouvrez la porte de vos mémoires et désinfectez tout. Oh, 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 n'oubliez jamais le monstre de vos histoires. N'oubliez jamais le monstre de vos cauchemars.
Le monstre, c'est l'inflation, vous avez compris, la Banque Centrale Européenne, avec encore pour quelques semaines Monsieur Jean-Claude Trichet à sa tête, est là pour combattre, tel Saint-Georges face au dragon, avec son épée. Monsieur Trichet est là pour notre bien à tous, surtout une petite minorité d'entre nous qui sont plutôt les rentiers que les routiers. Le point de vue sur ces questions, celle de l'inflation, le point de vue de Jean-Pierre Chevènement.
Alors de 1983 jusqu'à 2011 aujourd'hui, on est passé du franc fort à l'euro fort, mais ça a toujours été la monnaie forte.
Disons que le choix de la monnaie forte est un choix qui correspond aux intérêts de classe de nos élites, des détenteurs d'actifs financiers, correspond pas aux intérêts du monde du travail, de la jeunesse, qui naturellement se voit opposer à un certain taux de chômage réputé être indispensable à la lutte contre l'inflation. C'est ce qu'on appelle le NERU, Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. C'est une théorie qui a été décidée au niveau de la Banque Centrale Européenne, mais qui fait qu'il y a un chômage structurel en Europe de 9%.
On a décidé d'avoir du chômage.
On a décidé d'avoir du chômage pour ne pas avoir d'inflation. Et M. Trichet vous dira, mais c'est la mission de la Banque Centrale Européenne. Donc j'accomplis la mission qui m'a été fixée, puisque le soutien à la croissance et à l'emploi ne figure pas dans les missions de la Banque Centrale. Je fais ce qu'on me dit. Je lutte contre l'inflation et pour le reste, eh bien, après moi, le déluge.
Vous disiez que ça correspondait aux intérêts de classe des élites, mais pas aux intérêts de classe du monde du travail. Comment ça se fait alors que la gauche a accepté de passer du franc fort à l'euro fort?
Alors, j'ai deux explications. D'une part, il y avait le contexte international, la victoire de Thatcher et de Reagan dans les pays anglo-saxons, 1979-1980, de Kohl en Allemagne en 1982, et puis il y avait au sein même du gouvernement des gens qui, au fond, n'avaient jamais vraiment avalé la ligne d'Épinay, qui avaient toujours ça en travers de la gorge et qui ont saisi les circonstances les plus favorables pour se défaire, en quelque sorte, du carcan d'une ligne politique qui n'allait pas dans le sens de ce qu'ils croyaient.
Donc un double rapport de force, un rapport de force à l'international et un rapport de force au sein du gouvernement, au sein de la gauche.
C'était des idéologues d'un certain européisme dont on voit aujourd'hui les conséquences.
Alors là, vous écrivez, le Parti Socialiste se coula peu à peu dans un rôle de turiféraire de l'orthodoxie libérale et monétariste. Et finalement, ce rôle d'applaudir à l'orthodoxie monétaire et libérale, c'est un rôle dont il ne s'est pas départi jusqu'à aujourd'hui.
Oui, moi j'ai tout à fait désapprouvé ce virage qui a été décoré par le premier secrétaire du Parti Socialiste de l'époque, Lionel Jospin, d'une épithète « ouverture de la parenthèse libérale ». Mais j'observe que la parenthèse ne s'est jamais fermée. Donc j'ai combattu cette orientation. Je pense qu'il y avait pour la France un autre choix qui était celui d'une économie mixte avec des entreprises publiques qui joueraient un rôle directeur. Je pense que si la France avait continué à fonctionner sur son modèle qui était celui des grands projets tracteurs, comme elle l'avait fait, je dirais, depuis la libération, ça aurait donné in fine de bien meilleurs résultats que la dérégulation généralisée, l'abandon finalement au mouvement d'un capitalisme erratique qui ressemble de plus en plus au monstre de Frankenstein qui se retourne aujourd'hui contre ses créateurs.
Pendant toutes ces années de folie collective et d'autodestruction,
Le Président.
Je pense avoir vu tout ce qu'un homme peut voir.
Un film d'Henri Verneuil.
Des populations jetées sur les routes, des enfants jetés dans la guerre.
1961.
Des vainqueurs et des vaincus finalement réconciliés dans des cimetières, que leur importance a élevé au rang de curiosité touristique. La paix revenue, j'ai visité des mines. J'ai vu la richesse de certaines contrées et l'incroyable pauvreté de certaines autres. Et bien, durant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à l'Europe. Monsieur Chalamont, lui, a passé une partie de sa vie dans une banque, à y penser aussi. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.
Nous penserons d'abord à la France.
Mais vous n'avez pas le monopole de l'Europe, nous y pensons aussi.
Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. C'est sur les principes essentiels que l'on s'oppose. Pourquoi croyez-vous, messieurs, que l'on demande au gouvernement de retirer son projet d'union douanière? Parce qu'il constitue une atteinte à la souveraineté nationale? Non, pas du tout. Simplement parce qu'un autre projet est prêt.
C'est faux!
Un projet qui vous sera présenté par le prochain gouvernement.
Monsieur le Président, je vous demande la permission de vous interrompre.
Ah non! Et ce projet, je peux d'avance vous en dénoncer le principe. La constitution de trusts horizontaux et verticaux et de groupes de pression qui maintiendront sous leur contrôle non seulement les produits du travail, mais les travailleurs eux-mêmes. On ne vous demandera plus, messieurs, de soutenir un ministère, mais d'appuyer un gigantesque conseil d'administration.
Votre collègue allemand, quand vous êtes au ministère de la Recherche et l'Industrie, quand la France reste à l'intérieur du SME et fait tout pour ne pas dévaluer pendant un certain temps, votre collègue allemand vous dit que finalement ce système monétaire européen, c'est un système de subvention à l'industrie allemande.
C'est ce que me dit en
Jean-Pierre Chevènement,
le comte Otto von Lambsdorff, qui est le ministre de l'économie de la République fédérale à ce moment-là, qui me dit, bien entendu, c'est un système de subvention à l'industrie allemande.
Et est-ce qu'on pourrait dire, finalement, que l'histoire se poursuit et qu'aujourd'hui, l'euro fort, c'est un système de subvention à l'industrie allemande?
La zone pays, dont les structures économiques et industrielles sont tellement différentes, que au bout d'un certain temps, et l'euro a été créé en 1999, il y a donc 12 ans, on enregistre des écarts qui vont croissant. Contrairement à ce qui était envisagé à l'origine, les économies n'ont pas convergé, elles ont divergé. L'Allemagne a creusé l'écart de compétitivité avec le reste de la zone euro, environ 15 points, 10 points avec la France, 30 points avec la Grèce, et que naturellement, ça entraîne des déséquilibres. L'euro a renforcé l'effort. L'Allemagne, les Pays-Bas, les pays du Nord, et elle a affaibli les faibles, les pays méditerranéens, mais la France aussi. Toute monnaie était adaptée au pays, et le mark était très bien adapté à l'Allemagne. Il a été constamment réévalué depuis 1949. Disons que le franc, lui, était constamment dévalué. Enfin, tous les 10 ans, on dévaluait de 10 à 15%. Je dirais qu'à ce prix, nous avons maintenu une croissance forte. Les 30 glorieuses ne s'expliquent pas, malheureusement, autrement.
Pour vous, monsieur Chevènement, quel était le bilan du francfort et de l'eurofort?
Le principal effet était la désindustrialisation continue de la France. Hein, notre industrie, qui pesait 30% du PIB en 1980, pèse 13% aujourd'hui. Le résultat, ce sont les délocalisations industrielles. C'est un chômage de masse proche de 10% qui frappe d'abord la jeunesse, 23%. Et en contrepartie, vous me direz, il y a eu une certaine stabilité des prix, je ne le conteste pas. Ceux qui avaient de l'argent ont vu leur fortune s'apprécier.
Et donc tous ces mots, le chômage, y compris le chômage des jeunes, les délocalisations, vous les rattachez à une politique monétaire?
Oui, je pense que le choix central était celui d'une monnaie trop forte, qui étouffe notre économie.
Vous savez, la responsabilité centrale de la maison, si je puis dire.
Jean-Claude Trichet, président de la Banque Centrale Européenne.
C'est d'assurer la stabilité des prix. Quand on fait tous les sondages d'opinion, si je puis dire, toutes les enquêtes d'opinion possibles, on a toujours, dans tous les pays européens, en France comme en Allemagne, 80 à 90% des gens qui nous disent qu'ils veulent la stabilité des prix. Ils nous poussent à être rigoureux dans la stabilité des prix. Et ce sont les plus pauvres et les plus démunis d'entre nous, naturellement, pour des raisons évidentes, qui sont les plus insistants là-dessus. Donc ça, c'est notre responsabilité principale. Grâce à la stabilité des prix, on crée les conditions d'une croissance durable.
Alors, inflation ou pas inflation ? Le point de vue de Serge Halimi, directeur du Monde diplomatique, et auteur de « Quand la gauche essayait ».
Serge Halimi, dans les années 50, 60, 70, je voyais des graphiques, l'inflation était entre 6 et 10%, on va dire. Les gens, ils avaient peur à cette époque-là du gros monstre de l'inflation ?
Bon, la droite, les épargnants ont toujours eu peur de l'inflation, puisque l'inflation réduisait la valeur de leurs créances. Mais pendant la période que vous évoquez, des années 70, effectivement, il y avait un taux d'inflation qui était relativement fort, qui parfois était supérieur au taux d'intérêt. Donc, en quelque sorte, tous les ans, vous prêtiez de l'argent à la caisse d'épargne, vous mettiez de l'argent à la caisse d'épargne et vous en perdiez une partie. Vous aviez un taux d'intérêt, je ne sais pas, de 4%, de 5%, et le taux d'inflation pouvait être de 7, de 8 ou de 10%.
Donc, finalement, ça avantageait ceux qui empruntaient et ça désavantageait ceux qui prêtaient.
Absolument. Mais ceux qui gagnaient, c'était les jeunes qui s'endettaient pour acheter une maison à très bon prix, puisqu'ils savaient que, de toute façon, le taux d'intérêt qu'ils payaient serait très largement absorbé par l'inflation. À partir des années 80-90, il y a eu une lutte contre l'inflation. Ça a été la grande priorité de la droite américaine, mais aussi de la droite britannique et puis de la droite française, c'est de préserver les intérêts des épargnants, les intérêts des détenteurs de capitaux qui prêtent leur argent à l'État ou à d'autres. Et cette politique de lutte contre l'inflation a conduit à ce que des gens prêtent sans aucun risque, et c'était la fameuse formule de François Mitterrand, gagnent de l'argent en dormant. Dire que c'est un choix de classe, c'est l'évidence. Peut-être qu'il n'a pas été conçu ou perçu comme tel à l'époque, mais le résultat est net. Le pouvoir d'achat des salaires reculait. Le pouvoir d'achat des épargnants, lui, augmentait.
Ah, je trouve assez partisan, Serge Halimi, parce qu'à la Banque Centrale Européenne, à la fois Jean-Claude Trichet et Paul Mercier, le responsable de la salle des marchés, m'ont bien expliqué que c'était pour préserver les plus pauvres, les plus démunis, les salariés, leur pouvoir d'achat, qu'on luttait contre l'inflation.
Oui, théoriquement, ça pourrait ne pas être faux, à ceci près que la période que vous évoquiez, celle des années 70 et même du début des années 80, il y avait ce qu'on appelait l'échelle mobile des salaires. Ce n'étaient donc pas les salariés qui perdaient le plus. Ceux qui perdaient le plus, c'est ceux qui avaient prêté de l'argent et qui ne bénéficiaient pas de l'échelle mobile du capital. À partir des années 80, on a créé l'échelle mobile du capital et on a supprimé l'échelle mobile des salaires. À vrai dire, les monétaristes, les intellectuels qui ont conçu les politiques de Reagan et de Thatcher ont compris qu'il fallait lutter contre l'inflation, que Milton Friedman lui-même qualifiait de voleurs silencieux. De la même manière que combattre les syndicats, ouvrir les marchés à la concurrence, obtenir que les services publics soient démantelés, tout ça fait partie d'un tout qui a été conçu comme tel. On peut reprocher beaucoup de choses à Milton Friedman ou à Friedrich Hayek, mais certainement pas d'être des imbéciles et certainement pas de ne pas avoir compris où menaient les politiques qu'il recommandait.
Merci à tous. C'était un reportage de François Ruffin à la Banque Centrale Européenne. On se retrouve demain. Je cherche mon petit papier. Auparavant, je dois remercier également Paul Mercier, Clément Fontan, Jacques Généreux, Jean-Pierre Chevènement. Les livres des uns et des autres figureront sur le site de France Inter, la rubrique émission Là-bas si j'y suis, et sur le site là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission et faire vos commentaires, qui sont toujours bienvenus. À la technique aujourd'hui, Guillaume Lacroux et Lydvine Caron, c'est Bertrand Chompton et Franck Adhérer qui ont réalisé cette émission modeste, géniale et monstrueuse, assistée de Marina Touyez et Grégory Salomonovitch. Quant à lui, attend vos messages sur le répondeur de la base J'y suis au 01 56 40 37 37.
Hé, le loup, t'aimerais pas être aussi fort que nous. Voilà notre secret, le loup. Manger 3 produits laitiers par jour. En plus, c'est facile. Bah oui, prends un yaourt le matin, un verre de lait au goûter et un bon morceau de fromage le soir. C'est quand même pas compliqué, le loup.
Paf, paf, paf. Et 3 produits laitiers pour le loup.
Les produits laitiers sont nos amis pour la vie.
Campagne financée avec le concours de l'Union Européenne, de la France et du PNIEL.
Préfonds Retraite, vous connaissez ? C'est le numéro 1 de la retraite complémentaire facultative de la fonction publique. Aujourd'hui, nos experts vous conseillent au 30-25 pour vous préparer des revenus à vie sécurisés et bénéficier d'une fiscalité avantageuse. Oui, vous ! En France, 10 millions de personnes peuvent en profiter. Appelez vite le 30-25.
Préfonds Retraite, complémentaire et nécessaire.
30-25, appel gratuit depuis un poste fixe.
Votre restaurant est reconnu. Vos ravioles de veau exquises, votre turbo aux épices divins, votre clafoutis. Si seulement les courants d'air ne traversaient pas votre salle, vos clients seraient comme des coqs en pâte.
Appelez votre conseiller EDF Pro. Il pourra vous mettre en relation avec des partenaires qualifiés pour améliorer le confort thermique de votre local et le rendre plus économe en énergie. Plus d'informations sur EDF Pro au 0810 333 776. Prix d'un appel local hors surcoût éventuel selon opérateur. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Inter, partenaire de Nancy Jazz Pulsation du 5 au 15 octobre. Le festival Jazz et Musique Actuelle accueille pour sa 38e édition plus de 120 formations à Nancy et en Lorraine. Une affiche éclectique avec Billy Cobham, Chemekia Copeland, Chucho Valdés, Catherine Ringer, Zaza Fournier, Imani, Kid Creole and the Coconuts et bien d'autres. Nancy Jazz Pulsation du 5 au 15 octobre. Renseignements sur franceinter.fr.
France Inter et le théâtre équestre Zingaro présentent à partir du 2 novembre au fort d'Aubervilliers Calacas. Bartabas s'attaque au ciel et va y festoyer de plus belle en mettant la Camarde en cavale et les morts vivants à cheval. Préparez-vous à entrer dans une danse de l'âme joyeusement macabre, déroulée sous vos yeux autant qu'au-dessus de vos têtes. Un double carnaval endiablé, mené au son du tambour, des fanfares mexicaines et des orgues de barbarie. Retrouvez Bartabas dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Et on se retrouve tout à l'heure à Limoges à 20h pour le 10e anniversaire de l'association Mémoire à Vif avec la projection du film Si longtemps interdit, Octobre à Paris de Jacques Panigel. On se retrouve demain, sinon à 15h pour la Basse, j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
L'application de la circulaire Guéant pour les diplômés étrangers va être corrigée. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Laurent Wauquiez, le dit cet après-midi au journal Le Monde. De nombreux diplômés étrangers, dont certains très qualifiés, s'étaient vus en fait refuser la possibilité de rester travailler en France à l'issue de leur cursus pour acquérir une première expérience professionnelle. Devant le tollé suscité par cette circulaire, Laurent Wauquiez a donc expliqué que consigne sera donnée au préfet pour que le texte ne soit pas surinterprété comme il l'a été. Dans la disparition de Marie de Dieu au Kenya, 7 habitants de l'archipel de Lamu et de ses environs ont été arrêtés aujourd'hui. Ils sont soupçonnés d'avoir renseigné ou aidé le groupe armé qui a kidnappé la Française le week-end dernier. On sait qu'elle est désormais retenue en otage en Somalie. À défaut de pouvoir la faire libérer, les autorités françaises essaient actuellement de lui faire parvenir des médicaments. Handicapée, Marie de Dieu souffre d'un cancer et d'insuffisance cardiaque. Perquisition terminée dans les locaux des PJ de Lyon et de Grenoble. La police des polices a emporté avec elle cet après-midi des ordinateurs. Ces perquisitions entrent dans le cadre de l'enquête pour corruption dans laquelle est impliqué notamment Michel Néret. Le bureau d'ailleurs de l'ancien numéro 2 de la PJ de Lyon a été perquisitionné. Une enquête a été ouverte aujourd'hui à Marseille pour tenter de comprendre comment 3 dauphins ont pu être tués dans les calanques marseillaises de Morgiou. Les cétacés étaient bien cachés au fond de l'eau, Marie-Christine Loriol.
Les 3 dauphins bleus et blancs gisaient par 58 mètres de fond dans la calanque de Morgiou, reliée par une corde à un bloc de béton. La macabre découverte a été faite par 2 plongeuses qui exploraient le lieu-dit des carcasses, un site dans lequel se trouvent nombre d'épaves de voitures. Les 3 mammifères étaient attachés à une chaîne fixée à l'intérieur d'un pneu dans lequel avait été coulé du béton, une technique utilisée par les pêcheurs et les plaisanciers en Méditerranée pour réaliser un mouillage fixe. Tout porte à croire que les dauphins ont été capturés accidentellement dans des filets par une ou plusieurs personnes qui s'en sont débarrassées. L'espèce strictement protégée depuis 1970 bénéficie depuis quelques mois d'une réglementation encore plus stricte, notamment en ce qui concerne son lieu de vie et de reproduction. Et l'affaire prend une dimension encore plus importante quand on sait que les trois dauphins gisaient au cœur du futur parc des Calanques. Marseille, Marie-Christine Auriol, France Inter.
La Cour européenne des droits de l'homme examine aujourd'hui un dossier historique, celui du massacre de Katyn, 22 000 officiers polonais tués par l'armée soviétique en 1940. Les descendants de 12 victimes accusent Moscou de violation du droit à la vie pour avoir refusé de mener une enquête. Pendant 50 ans, Moscou a en effet accusé les nazis du massacre. C'est Mikhaïl Gorbatchev qui, en 90, avait reconnu la responsabilité du NKVD, la police secrète soviétique. La Cour de Strasbourg rendra son arrêt d'ici quelques mois. Enfin, la BBC dégraisse. Le premier groupe audiovisuel public au monde a dévoilé aujourd'hui un nouveau plan d'économie. Il se traduira par la perte d'environ 2000 emplois d'ici 2017. C'est la conséquence directe du gel pour 6 ans de la redevance décrétée par le gouvernement dans le cadre de sa politique d'austérité. Alors, il n'y aura pas de suppression de chaînes radio ni télé. Le plan d'économie de la direction préconise des gains de productivité via notamment la mutualisation des moyens. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Tous les matins, à partir de 10h, service public, Guillaume Herner.
Jamais il n'a été autant question de riches dans la conversation nationale. Mais l'argent des uns fait-il la prospérité des autres? Thierry Pech, directeur de la rédaction du mensuel Alter Echo, pense que non. Nous attendons vos questions et vos remarques sur ce thème au 01 45 24 7000 ou bien sur notre site internet franceinter.fr.
Service public. Demain sur France Inter, à partir de 10h. France Inter. La différence.
Bonjour Frédéric Ledéon.
Et bonjour, bonjour Laetitia.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Un nouveau disque et puis surtout une œuvre jamais enregistrée, ça fait toujours plaisir, évidemment. Et George Onslow, compositeur d'origine anglaise, mais né en France, à Clermont-Ferrand, a été un maître de l'écriture. D'ailleurs, Berlioz, qui n'était pas tendre, a écrit « Monsieur Onslow est une des plus belles gloires musicales de la France ». C'était en 1837 qu'il a écrit ça. Et puis, un peu avant, depuis la mort de Beethoven, c'est lui qui tient le sceptre de la musique instrumentale. Plus de 30, on ne sait pas exactement, 35 ou 36 quatuors, 34 ou 35 quintettes à cordes, 4 symphonies, 3 opéras, violoncelliste et puis pianiste aussi à 16 heures. Ça a été un musicien un peu étouffé par la gloire de ceux qui étaient autour de lui. Son nom a eu du mal à émerger. Mais ces jours-ci, on retrouve Onslow au disque notamment. Et voici donc le premier enregistrement mondial de son quintette avec piano, opus 70, Allegretto Molto Moderato. Thank you. Allegretto molto moderato, au début de ce qu'on a entendu, au début de cet extrait, puis après, évidemment, ça s'est précipité d'une strette, un resserrement. Quintette avec piano plus 70 de Georges Onslow, donc le final interprété par François-Joël Thiollier au piano avec l'ensemble Mon Solo, c'est un disque Polymnie. Encore Onslow, décidément, voilà, il revient vraiment. Et là, c'est le quatuor Diotima qu'on va pouvoir apprécier dans le 30e quatuor.